Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voici un homme diplômé de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Thaï et Lao, qu'il parle. Il parle de nombreuses langues, donc, et quand il n'est pas sur le terrain en Afrique ou en Asie, il vit à Bastia, son port d'attache, car il est corse par sa mère. Il tient une chronique hebdomadaire sur les ondes de Radio Salve Regina, une radio chrétienne présente sur la Haute-Corse. Cet homme, c'est Hervé Cheuseville, que je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui. Hervé Cheuseville, bonjour. Oui, d'habitude, je présente l'ouvrage, mais nous allons en parler. Bonjour quand même.
Bonsoir, donc. Bonsoir à tous vos auditeurs et auditrices.
Voilà, oui, parce que, en fait, en ce moment, vous allez moins en Afrique, en Asie aussi. Vous écrivez beaucoup. Et donc là, j'ai devant moi 4 ouvrages. Alors, le quatrième vient d'arriver avec vous. Et donc, 3 ouvrages que j'ai... Je n'ai pas eu tout le temps de les lire, mais il est intéressant quand même de voir votre histoire, parce que le jour où vous allez raconter vos souvenirs, votre vie est un roman.
En quelque sorte, oui. Parfois, j'ai le sentiment que ma vie est un roman. Mais le problème, c'est que les souvenirs s'effacent.
Écrivez.
Il faut écrire.
Je vous attendrai. Une biographie, c'est formulé. Une autobiographie. Parce que, alors, depuis 1978, vous avez vécu et travaillé dans l'humanitaire.
Tout à fait. Je n'ai fait que ça dans ma vie. Je ne sais pas faire autre chose.
D'accord. Donc, vous vous dévouez aux autres.
Oh, je suis pas un saint.
Et en même temps, vous faites plaisir.
Exactement. Exactement. Je fais ce que j'aime.
Ouais.
Et l'autre m'a toujours intéressé.
D'accord. Alors d'abord, vous étiez en France, aux côtés des réfugiés du sud-est asiatique et des migrants.
C'était la grande époque des boat people. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Puis en Thaïlande, dans les villages et camps de réfugiés laotiens et ensuite au Laos et en Birmanie. Oui, il y avait aussi toute cette... je me souviens d'avoir interviewé un jeune médecin qui avait été envoyé psychiatre, qui avait été envoyé dans ces camps de réfugiés en particulier. En 89, vous avez effectué votre tournant africain et alors là...
Involontairement.
Ah bon ?
Ben oui, parce que je ne rêvais que d'une chose, c'est d'avoir... Un poste qui me permette de vivre, de gagner un petit peu ma vie quand même, mais de vivre en Asie, puisque j'avais fait des études dans ce sens-là.
Oui.
Et puis un beau jour, je reçois un coup de téléphone de Rome, non pas du pape, mais du PAM, le Programme Alimentaire Mondial,
des
Nations Unies, qui m'a demandé si j'étais toujours intéressé pour travailler au Soudan. C'est vrai que j'avais envoyé une candidature au PAM, mais je n'avais jamais exprimé le moindre intérêt pour le Soudan. Mais j'ai répondu oui, bien sûr. Et 48 heures plus tard, j'étais dans un avion pour le Soudan.
Voilà. Ah oui, décision rapide et puis qui vous a...
Je travaillais pour le CCFD à l'époque, à
D'accord.
Paris. J'y suis pas resté très longtemps, mais j'ai démissionné du CCFD pour partir au Soudan.
Appelé par ces pays étrangers. Alors là, vous avez accompagné les convois de nourriture.
C'est là que j'ai découvert vraiment la famine et la guerre.
Parce que la guerre,
je l'avais approchée en Asie du Sud-Est, mais j'étais pas au milieu. Tandis que là, au Sud-Soudan, qui faisait encore partie du Soudan, j'ai découvert la guerre.
La misère.
Et plus que la misère, les gens qui mouraient de faim. Je raconte dans un de ces livres, là, comment, quand je suis arrivé à Wao, après des jours et des jours de route infernale avec les camions, on dormait sous les camions, dans des pistes innommables, quand je suis enfin arrivé avec ces camions de nourriture à Wao...
Avec des températures, sans doute.
Bien sûr, très très chaudes. Mmh. Et puis les moustiques, et puis tout ce que vous voulez. Et quand je suis arrivé à Wao, on a déchargé la nourriture dans un camp de déplacés. Et là, c'est là que j'ai eu ce compte, que j'ai vu des gens squelettiques, que j'ai vu le matin les cadavres de ceux qui n'avaient pas survécu, qui n'avaient pas, à la nuit, étaient évacués sur des brancards de fortune, pour des enterrements de fortune également.
Et les enfants.
Et les enfants qui rampaient par terre pour ramasser les grains qui tombaient de nos camions quand on déchargeait de la nourriture. Mmh. Donc ça a été mon grand choc, venant d'Asie.
Ouais, bien sûr.
J'avais pas vu ça, même si j'ai vu l'extrême misère en Asie, ça je ne l'avais pas vu. Et ça a été, psychologiquement je pense que ça a été très, très dur, même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et ça a été le grand tournant de ma vie.
Mmh. D'autant que c'est une guerre qui a duré.
Qui a duré et qui dure encore.
Qui dure encore,
parce que
oui.
C'est plus la même, oui. Mais il y a encore la guerre
et
au Sud-Soudan.
Et toute cette partie-là, d'ailleurs, est dans oui. Les misérables.
Mais le Sud-Soudan, c'est vraiment peut-être le pire pays au monde dans ce, au point de vue humanitaire. Parce qu'il y a la guerre depuis avant l'indépendance du Soudan.
Et on ne peut pas envoyer d'aide suffisante du fait de la guerre, si ?
Exactement. Et puis, vous avez les seigneurs de la guerre qui cherchent à détourner
Ils se servent.
Ils se servent.
Oui.
Les populations sont otages de ces seigneurs de la guerre. Mmh. C'est une situation inextricable. Ça fait un demi-siècle que ça dure, mais plus même au
Et il y a encore des ONG, des humanitaires qui travaillent là ? Qui peuvent travailler ?
Moi, j'ai travaillé pour des ONG au Sud-Soudan.
Mais actuellement ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, la plupart, les expatriés sont à Djouba, la capitale, et en sortent relativement peu, malheureusement.
Alors, donc, vous avez travaillé pour le PAM, on rappelle, Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, au Soudan, mais aussi au Malawi, au Mozambique, à l'Ouganda, Burundi, Rwanda. On parlera du Rwanda, c'est un sujet
aussi. C'est un autre grand tournant de ma vie.
Ça. Oui, ça j'imagine très bien. Et puis, vous avez travaillé pendant un an et demi au nord de l'Ouganda, donc pour l'ONG italienne, une ONG italienne. Alors, c'était comment ? Parce que
c'est
donc,
une ONG
ce sont des programmes courts apparemment, non ?
Ça dépend toujours des financements.
Oui.
Quand un donateur, que ce soit un État ou une organisation, finance un programme, l'ONG qui est responsable du programme recrute des gens pour la durée du programme. Mais quand le projet est terminé et que les financements sont terminés, votre contrat s'arrête. Donc
d'accord.
Moi, j'ai toujours été en CDD depuis 1978.
Oui, d'accord. Ce qui explique. Mais en même temps, ça vous donne un regard sur beaucoup de pays et beaucoup d'organisations. Oui, voilà, parce que là, on pourrait en parler aussi. C'est tout un programme. Oui, alors, cette ONG italienne, et là, vous avez dirigé un centre orthopédique
pour les
victimes de mines antipersonnelles. D'accord.
Ouais.
En l'an 2000, vous revenez au Soudan du Sud, envoyé par l'Ordre de Malte allemand. Alors, l'Ordre de Malte, ça m'a intéressé de lire ça, parce que je vous parlais tout à l'heure d'un psychiatre envoyé en Asie au moment des Boat People. Eh bien, c'est l'Ordre de Malte qui l'avait envoyé en tant que médecin.
L'Ordre de Malte est un organisme mondial qui a un statut d'État, quasiment, parce qu'il a des ambassades, il est basé à Rome. L'Ordre de Malte, autrefois, c'était Malte. Hein.
Oui,
ça n'est plus Malte depuis Bonaparte, depuis qu'un certain Bonaparte a chassé
les chevaliers de
Malte. Donc, ils se sont réfugiés dans leur ambassade auprès du Saint-Siège, qui a le statut d'extraterritorialité. Ils frappent monnaie et ils font des timbres aussi, et ils ont des ambassades dans le monde entier. Donc, ils ont le statut diplomatique.
D'accord.
Mais dans chaque pays, il y a des filiales nationales. Donc, en France, on a l'Ordre de Malte France. En Allemagne, il y a ce qu'ils appellent Malteser, qui est l'Ordre de Malte allemand, et dans d'autres pays également.
Voilà. D'accord. D'accord. Donc, là, vous êtes en territoire contrôlé par le SPLA.
L'Armée de Libération des Peuples du Soudan, qui était la rébellion à l'époque, qui maintenant est au pouvoir depuis que le Sud-Soudan est devenu indépendant en 2011.
D'accord. Et vous dirigez là un hôpital de campagne. Et en 2001 et 2002, vous avez travaillé pour le compte de l'UNICEF en Ouganda et en République démocratique du Congo, alors que maintenant on appelle... c'est l'ancien Zaïre.
À l'indépendance, c'était la République démocratique du Congo. Après le coup d'État de Mobutu, c'est devenu le Zaïre. Et c'est redevenu la République démocratique du Congo.
Voilà, il faut suivre,
ne pas
là, c'est pas évident. Hein.
Parce que c'est comme l'Allemagne autrefois, ne pas confondre les deux Congos. Il y a deux Congos.
Oui.
Il y a le Congo, la République démocratique du Congo, qui était ce qu'on appelait il y a encore
plus
longtemps.
Qui est plus à l'ouest.
Le Congo belge, qui est immense, cinq fois la France.
Oui.
Puis il y a le petit Congo, qui ne fait que la moitié ou un tiers de la France.
Et qui fait partie des pays des Grands Lacs.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Il faisait partie de l'Afrique équatoriale française,
d'accord.
Le Congo-Brazzaville. Ouais. Il est séparé du Congo-Kinshasa par le fleuve Congo.
D'accord.
Donc, quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez Brazzaville en face. Ce sont les deux capitales les plus proches au monde.
D'accord. D'accord. Alors là, vous avez travaillé et vous êtes occupé en particulier de la démobilisation des enfants soldats congolais. Et il me semble, Hervé Schoesville, bon, vous êtes venu, hein, ce n'est pas la première fois que vous venez, que vous nous aviez parlé
Exactement.
De ces soldats.
C'est ça qui a déclenché ma carrière d'auteur, puisque mon premier livre paru en 2003 s'appelait Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale, publié chez l'Harmattan. Et je racontais dans ce livre mon expérience de démobilisation des enfants soldats, qui a été un gros échec. Je pourrais vous donner des détails si vous le souhaitez. Mais j'ai inclus dans ce livre également mes expériences avec les victimes de mines antipersonnelles, enfin tous les enfants touchés par la guerre de près ou de loin.
Ouais.
Et ça a été mon premier livre. Je pensais pas que ça allait, qu'il y en aurait des suivants, mais ça, c'est en écrivant ce livre que j'ai découvert que j'aimais écrire, et depuis je peux plus m'en passer, j'écris.
Eh bien écoutez, voilà. Heureusement pour nous que vous écrivez, que vous laissez justement vos témoignages. Vous avez travaillé pour différentes ONG, donc en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Malawi. Et en 2010, c'est au Tchad que vous commencez à travailler pour The Mentor Initiative, une ONG britannique luttant contre le paludisme. Puis pour Internews, une ONG états-unienne qui avait créé des radios humanitaires dans l'est du pays. Alors, ce sont toutes ces expériences et tous ces voyages qui vous ont inspiré à amener à écrire 8 livres et de nombreux articles et chroniques. Mais dites-moi un mot quand même sur toutes ces ONG. Qu'est-ce que vous en retirez ?
C'est un peu comme le monde de l'édition. Vous savez, je suis auteur, donc j'ai eu affaire à de nombreux éditeurs. J'ai trouvé des gens formidables, mais j'ai trouvé aussi des escrocs. Je n'ai jamais trouvé l'éditeur idéal. Je vous répondrai donc diplomatiquement que je n'ai jamais trouvé l'ONG idéale. En fait, les ONG sont ce que les hommes en font.
Oui,
vous pouvez
sûr.
Avoir une très bonne ONG à un certain moment du fait du charisme particulier d'une certaine personne. Si cette personne disparaît ou passe la main, bon, ou alors vous avez quelqu'un de très bien au centre, mais les agents qui sont envoyés sur le terrain ne sont moins bien. J'ai connu, bien sûr, la corruption. J'ai connu des... J'en parle dans mes livres, ce qu'on a appelé les opérations retour. C'est-à-dire, vous avez des ONG locales, donc nationales, si vous voulez, qui se présentent auprès des ONG internationales, américaines, françaises, anglaises, etc., pour avoir des financements pour tel ou tel projet. Mais là, vous avez des affaires de corruption, parce que l'agent... de l'ONG internationale dira « D'accord, on finance ton projet, mais... »
En retour
il nous faut, sur le financement de 1200 euros, il y a 300 euros que tu dois me rendre. Donc, ou parfois des produits alimentaires ou autres, c'est le même système.
Oui,
donc j'ai
oui.
connu tout ça.
Oui,
hein.
Oui,
vous
sûr.
Pouvez avoir de très bonnes ONG qui sont gangrénées.
Oui.
Et moi, si j'ai quitté le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, c'est à cause de la corruption, parce que oui. j'ai dénoncé la corruption
oui.
et je me suis fait beaucoup d'ennemis
oui,
très puissants.
Alors moi, ce que j'ai entendu dire par des gens travaillant comme vous dans des organisations internationales, que certaines quand même affichent une richesse, en particulier roulant dans des 4x4 flambant neufs.
Maintenant, dans un pays comme le Congo, puisque vous parliez du Congo
ouais.
Kinshasa, où il n'y a pratiquement pas de route.
Oui, il vaut mieux
des routes.
Il vaut mieux des voitures
solides. Il vaut mieux avoir des 4x4.
Oui, non,
mais c'est
d'accord.
vrai que vous avez des 4x4 de luxe.
Ouais.
Mais ça, c'est financé par les donateurs. C'est les donateurs
oui,
institutionnels. C'est
ouais.
l'Union européenne, c'est USAID pour les Américains
ouais.
qui financent ça, et ça comprend l'achat de véhicules.
Ouais.
Et c'est effectivement des véhicules de luxe.
Bien
je
ne
vais
sûr.
Pas cracher oui, dans la
oui.
soupe, comme on dit. J'ai moi aussi roulé dans les 4x4 de
luxe. Et puis, bon, on met le doigt sur les choses qui ne vont pas, mais il faut reconnaître quand même qu'elles ont le mérite d'exister, ces ONG, et qu'elles font du travail.
Bien sûr. Mais ceci dit, la grande leçon que je retire, malgré tout, c'est qu'on a une ONG qui existe depuis très longtemps et qui fait du bon travail là où les ONG n'y sont pas, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, par l'intermédiaire naturellement de ses différentes congrégations, parce que dans un pays comme le Sud-Soudan...
Et d'une manière très discrète, finalement.
Discrète, ils sont là,
oui.
ils existent.
Oui.
Mais dans des pays comme le Sud-Soudan, ravagé par la guerre, ou comme l'Est de la République démocratique du Congo, ou comme le Burundi, ou comme le Rwanda, ravagé par la guerre, quand ils l'ont été, là où tout le monde est parti, il reste l'Église.
Oui.
Et
ouais.
donc, il y a là où les écoles d'État sont fermées parce que les instituteurs ont fui pour leur sécurité ou parce qu'elles ont été pillées, il reste les écoles catholiques, pas partout, mais il reste des écoles catholiques, il reste des hôpitaux catholiques.
Il y a des religieuses
qui fonctionnent.
Ouais.
Et ceux-là, on ne les évacue pas.
Ouais.
Donc, moi, je tire mon chapeau
ouais.
aux missionnaires.
Ouais.
J'ai rencontré des missionnaires extraordinaires.
Ah ben oui. Et on vous a parlé hors antenne avec Emmanuel Pelat, journaliste ici à Radio Présence. On vous a parlé du père Hugeux, qui est bien connu, qui a travaillé à l'Institut catholique et qui est maintenant en Afrique, mais vous savez dans quel pays ?
Le Kivu, donc, oui, qui est une province de la République démocratique du Congo.
Voilà,
où
oui.
j'ai moi-même vécu et
voilà.
travaillé. Mais je ne l'ai jamais rencontré.
Voilà, mais certainement que vous allez le rencontrer maintenant, parce que c'est quand même une personne extraordinaire. Alors, vous avez écrit donc Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale. Vous avez écrit également Chronique africaine de guerre et d'espérance, Chronique d'un ailleurs pas si lointain, réflexion d'un humanitaire engagé. Et puis, vous avez fondé des éditions, une maison d'édition, pardon, Edizione Vincente. Stello.
Oui,
je vous laisse la prononciation.
C'est un héros national corse de l'époque du Moyen-Âge.
D'accord, à Bastia.
Je n'ai pas voulu l'appeler Napoléon Bonaparte ou Pascal Paoli.
D'autant que Napoléon n'a pas laissé que de bons souvenirs.
Très mauvais, en Corse, très mauvais. La Corse n'a jamais été aussi malheureuse que sous Napoléon Bonaparte.
Et les Espagnols vous diront la même chose. Oui. Alors, vos derniers ouvrages sont Rwanda, 25 années de mensonges, justement dans cette maison d'édition, et Prêche dans le désert. Vous avez également contribué à l'ouvrage collectif Corse de la diaspora, dirigé par le professeur Castellani. Alors, évidemment, nous n'aurons pas le temps de parler des trois livres qui sont sous mes yeux. Bon. Cependant, un mot sur l'ouvrage collectif Corse de la diaspora.
C'était, la dernière volonté du docteur Edmond Simeoni, que nos auditeurs, je suppose, connaissent, l'homme d'Aléria, des événements d'Aléria en 1975, le père du nationalisme corse moderne. Edmond Simeoni, qui était un ami, même s'il était beaucoup plus âgé que moi, a consacré les dernières années de sa vie à la diaspora corse. Il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de Corses dans le monde entier, et il voulait reconnecter la diaspora corse à l'île de Corse. Et donc, il m'avait demandé de participer à un ouvrage qu'il souhaitait ardemment voir être publié, qui contenait des témoignages de Corses du monde entier. Et j'ai donc accepté, ne sachant pas qui étaient les autres auteurs, co-auteurs, et ce qu'ils allaient raconter. J'étais un peu ennuyé, d'ailleurs. Je me disais, si jamais il y a des gens qui racontent comment ils ont installé des machines à sous ou des choses comme ça, ça me déplairait. Mais non, finalement, c'est pas le cas. Et donc, le docteur Edmond Simeoni a eu un dernier bonheur dans sa vie. C'était en novembre dernier, lorsqu'il a pu tenir ce livre dans ses mains. Et nous l'avons lancé ensemble à Ajaccio en novembre 2018. Et quelques semaines plus tard, il est malheureusement décédé. Mais il a eu cette dernière satisfaction dans sa vie de voir ce livre être publié. Et il en a fait la préface, une des préfaces.
Alors, évidemment, on trouve des personnes venant de tout pays ou habitant même actuellement dans différents pays, dont le Mexique et Mayotte, là au hasard, et vous qui étiez de partout.
Et moi, je parle de l'Afrique. Je suis le seul, je crois, à parler de l'Afrique. Et bon, c'est un livre dont on peut malgré tout parler parce que j'ai fait un résumé de ma carrière africaine. J'ai fait un résumé dans ce livre de mes 24 années d'Afrique.
Mais là, on renverra les auditeurs. Bien Alors, sûr. Sur le site internet, vous avez tous vos livres. Oui. Parce que, évidemment, par exemple,
il y a des livres
Kadogo,
qui sont introuvables
enfant
maintenant.
De guerre d'Afrique.
Celui-ci est toujours disponible chez L'Harmattan. Hein. L'Harmattan D'accord. est une maison d'édition nationale, donc on peut encore le commander chez L'Harmattan, D'accord. 15 ans plus tard.
Et réflexion d'un humanitaire engagé.
Ça, c'est fini. C'était la...
C'est édition Percée.
Je suis même pas sûr que Percée fonctionne encore. Les deux numéro 2 et numéro 3 sont introuvables. Moi, j'en ai encore. Donc, je peux effectivement répondre aux commandes si on m'en demande.
D'accord. Dans les deux autres ouvrages, que ce soit Prêche dans le désert, on en parlera bien sûr, et 25 années de mensonges, évidemment, on peut dire que vous vous insurgez. Oui. Contre les mensonges colportés par les médias, comme par les dirigeants des pays impliqués dans des guerres, des luttes d'intérêts, de pouvoir, où les libertés et la vérité sont bafouées. C'est ça, en fait.
J'ai appris.
Ce qui vous meut.
J'ai tiré des leçons de ma longue carrière humanitaire. Une des leçons que j'ai retenues, c'est que dans toutes les guerres, pas seulement les guerres, dans tous les conflits, la vérité est toujours la première victime. On dit aussi qu'un mensonge mille fois répété devient une vérité.
Oui.
Et ça, c'est vrai pour le Rwanda, mais c'est vrai aussi pour tous les sujets qui nous concernent, que ce soit l'immigration, que ce soit le conflit israélo-palestinien ou autre.
Il y a ceux qui arrangent, il y a des choses qui arrangent, il y a les raisons d'État.
Oui, sûr.
Et puis,
on est à l'heure de l'information raccourcie.
Oui, c'est ça.
Il faut
aussi.
Être très synthétique. Il faut qu'en deux minutes, on ait fait le tour du problème. Donc, si on n'est pas consensuel, si on dit quelque chose qui dérange, qui ne va pas dans le sens qui est mille fois répété, on devient aussitôt suspect. Et c'est mon cas. Je suis suspect dans certains milieux pour certains de mes écrits. On me fait des procès d'intention ou des procès...
Et pourtant, alors prenons votre ouvrage sur le Rwanda. Rwanda, sous-titré 25 années de mensonges, donc aux éditions Vincentello d'Istria, à Bastia. Le Rwanda, c'est un sujet ô combien douloureux.
Douloureux et polémique à la fois.
Et dont on ne comprend pas grand-chose, car tout est dit, le vrai comme le faux. Et puis, il faut reconnaître que la complexité des relations dans les pays des Grands Lacs africains a toujours donné une tournée, même aux experts. Hein.
Surtout, n'oubliez pas qu'en France, ou en Belgique, puisque la Belgique est très concernée également, nous avons une communauté rwandaise qui est elle-même divisée, et que vous avez des réfugiés Hutus et des réfugiés Tutsis. Donc, selon votre interlocuteur, vous allez avoir une histoire tout à fait différente.
Alors, Hervé Chazet, figurez-vous que je vais vous donner une anecdote, c'est que lorsqu'il y a eu ce drame africain au Rwanda, j'ai interviewé deux étudiants. Et j'avais demandé que l'on m'adresse deux étudiants, un Hutu, un Tutsi. Et nous avons fait, et c'était deux copains, des étudiants donc, et vraiment c'était très intéressant ce qu'ils disaient, mais il y a très longtemps, voyez, vous imaginez. Et à la fin j'ai dit, maintenant dites-moi qui est celui qui est Hutu et celui qui est Tutsi. Ils ont éclaté de rire, ils m'ont dit non, on ne vous le dira pas. Et ça m'avait empli d'espérance. Je m'étais dit, bon, s'il y a des jeunes qui pensent ça... Mais bon, c'est
exactement pourquoi je plaide dans mon livre. Il faut dépasser ce clivage, surtout que ça ne veut rien dire Hutu et Tutsi.
Oui, vous dites que ce n'est même pas une race.
Ce n'est même pas une race. Ce clivage a été accentué par le colonialiste belge et ensuite par les gouvernements qui se sont succédés. Mais la société rwandaise est de telle sorte que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Vous prenez un Rwandais, on va l'appeler Désiré. Eh bien, si Désiré... est Tutsi, est considéré comme Tutsi. Pourquoi il est considéré comme Tutsi? Parce que son père était Tutsi. Mais peut-être que sa mère était Hutu. Et peut-être que son père, lui aussi, avait un père Tutsi et une mère Hutu. Ce qui fait que notre Désiré est aux trois quarts Hutu,
oui.
Mais il sera considéré comme Tutsi.
C'est fou.
Voilà, ça se transmet par le père.
Pour nos auditeurs, si vous permettez, vous me direz si je me trompe, parce que j'ai voulu me documenter. Les Tutsis de tradition étaient des éleveurs, parmi lesquels se distinguaient de riches et puissants propriétaires de troupeaux. Les Hutus étaient des agriculteurs, des paysans. Et puis il y avait, je n'en avais pas entendu parler, les Twa, artisans et ouvriers.
Potiers, ils étaient spécialisés dans la poterie.
Potiers, des artistes donc. Oui. Ah ben voilà.
Mais les Twa, c'est ce qu'on appelle... d'une manière générique, les pygmées, si vous voulez.
D'accord.
Qui
vivent dans la forêt, non ?
Une branche rwandaise, oui, ils vivaient dans la forêt, une branche rwandaise ou burundaise, d'ailleurs, des pygmées. Ils font 2 ou 3% de la population. La plupart ne vivent plus dans la forêt depuis longtemps et se sont spécialisés dans la poterie. Et généralement, ils sont victimes des uns et des autres. Hein. C'est les plus marginalisés, les moins instruits. C'est une petite minorité autochtone, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient là avant les Tutsis, avant les Hutus.
D'accord. Dites-moi, si j'ai bien compris, à la fin de la guerre de 14-18, l'Allemagne, évidemment,
a perdu ses colonies.
Et la Belgique a pris à...
La Société des Nations a confié à la Belgique, l'ancêtre de l'ONU. Hein,
et pourquoi a-t-elle imposé les Tutsis pour exercer l'autorité?
Bon, les Allemands avaient déjà commencé. Mais... Le Rwanda précolonial, comme le Burundi d'ailleurs, était dominé par les Tutsis.
Ah, déjà.
Les Tutsis, c'était la classe dirigeante. Les rois, ce qu'on appelle les Mwami, c'est-à-dire le roi du Burundi ou le roi du Rwanda, était un Tutsi. Et tous les chefs coutumiers, donc tous ces vassaux, étaient également des Tutsis. Et en bas, vous aviez les Hutus, c'était la classe paysanne. Ce qui fait que quand
Mais ça ne tenait pas forcément à une plus grande culture. Ils étaient les chefs et les guerriers. D'accord.
C'est aussi la classe guerrière, on a oublié de le dire.
Oui, d'accord.
Et les Hutus étaient corvéables à merci, je dirais. Hein. Alors, lorsque les Allemands sont arrivés, puis les Belges, ils ont vu ces gens comme on dit, élancés, c'est-à-dire grands et minces. On utilise ce terme élancé.
Ils quand ont été impressionnés.
Dit, quand on vous dit au Rwanda ou au Burundi, ah, tu as eu un visiteur, il était élancé.
Ah, donc c'est un Tutsi.
Un Tutsi. Bon.
Ils sont plus trapus, les Hutus, non?
C'est ce qu'on dit.
Là aussi, oui, il y a un mélange,
des exceptions
bien
qui confirment la règle.
Bien sûr. Et bon, moi, je serais qualifié de Hutu, alors ça,
tout à fait. Et donc, il y avait une société dominée par les Tutsis. Jusqu'en 1955, disons, la Belgique a outrageusement favorisé les Tutsis parce qu'ils avaient un grand nez, ils étaient un peu plus clairs de peau, ils étaient grands, donc ils se sont dit, sur l'échelle des races, parce qu'à l'époque, naturellement, il y avait cette échelle des races,
ils nous paraissent plus fins.
Ils sont entre le noir, qui est en bas de l'échelle, et en dessous, bien sûr, le blanc. Qui était en haut de l'échelle.
N'oublions pas qu'il y avait quand même un racisme là-dedans.
Bien sûr, tous les écrits des ethnologues de la fin du 19e, début du 20e siècle, étaient abominablement racistes. Ouais. C'était la théorie des races.
Donc on leur a laissé un accès aux études beaucoup
plus important.
Ils
sont plus proches de nous, donc on va les favoriser dans les études. Et même dans les écoles catholiques, j'ai le regret de le dire, vous aviez 90% de Tutsis, alors que les Tutsis ne forment que 10 ou 12% de la population.
Alors, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter les tambours du Burundi. Moi,
j'adore.
Ah oui, moi aussi.
Je pourrais vous dire
été...
deux mots après la pause.
D'accord.
Sur mon expérience des tambourinaires.
D'accord. On reparlera des missionnaires catholiques et protestants dont je croyais qu'ils avaient ouvert les écoles à tous les enfants.
Oui, mais il y avait une majorité de Tutsis.
Ah ben
ça
oui,
s'est renversé à partir de 55.
D'accord.
Mais jusqu'en 55, c'était le cas.
À nous les tambours maintenant.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous venons d'entendre les tambours du Burundi. C'est quand même très dynamique, hein, Hervé Cheuseville.
C'est quelque chose de très masculin. Ce sont des hommes, des petits garçons de peut-être 6-7 ans et des vieillards, et avec tous les âges, toutes les classes d'âge entre les deux.
Qui chantent, qui dansent.
Qui apparaissent avec chacun un tambour sous le bras. Petit tambour pour le garçon de 7 ans, énorme tambour pour l'homme en pleine maturité, et qui se mettent à battre ces tambours avec des bâtons. Et c'est très athlétique, ils envoient le tambour en l'air, ils sautent en l'air. Enfin, c'est un spectacle extraordinaire. Il y a une vitalité qui ressort de ces spectacles. Moi, je ne m'en lasse pas. J'ai souvent été invité à des fêtes au Burundi où j'ai eu le plaisir de voir ces tambourinaires. C'est extraordinaire.
Alors, revenons donc à notre histoire du Rwanda. Alors moi, j'avais cru comprendre que l'Église catholique défend petit à petit une conception égalitaire et elle remet en cause l'équilibre politique qu'elle avait contribué à forger et elle se met à défendre les Hutus.
Après avoir longtemps
soutenu
les Tutsis, l'Église catholique rwandaise comme burundaise était des églises Tutsis. Et effectivement, en 55, il y a eu une évolution. Autour des années 55, il y a eu une évolution, tant de la part de l'Église que de la part de l'État belge. Ils se sont rendus compte que les gens qu'ils avaient formés, les intellectuels, donc qui étaient essentiellement des Tutsis, demandaient l'indépendance, étaient nationalistes. Donc ils se sont dit, on a peut-être nourri le serpent qui va nous mordre la main. Donc ils se sont mis à soutenir les Hutus pour ce qui est du Rwanda. Et ce qui fait qu'en 1959, il y a eu, avant l'indépendance, la révolution sociale, soutenue en sous-main par la Belgique, qui a permis aux politiciens Hutus de prendre le pouvoir, de renverser les chefs coutumiers, ensuite de renverser la monarchie. Et c'est là qu'on a eu un premier exode de Tutsis qui ont fui, qui ont perdu leurs biens et qui ont fui vers l'Ouganda ou vers le Congo. Et le Rwanda est devenu une république Hutu, essentiellement.
Oui, alors vous voyez, moi déjà, je suis un peu larguée parce que pourquoi la Belgique, tout d'un coup, s'est mise à soutenir les Hutus après
parce
avoir soutenu les
Tutsis ? Parce qu'ils ont senti le danger. Les intellectuels,
le risque d'indépendance.
Les intellectuels Tutsis étaient
trop,
nationalistes.
Trop malins, trop éduqués.
Et, voilà.
Oui, d'accord.
Tandis qu'au Burundi, on a eu le schéma inverse. Les Tutsis ont réussi à s'accrocher au pouvoir. La monarchie n'a pas été tout de suite renversée. Elle a fini par être renversée, mais par des militaires Tutsis. Et les militaires Tutsis sont restés au pouvoir très longtemps, jusque dans les années 90. Ce qui fait qu'on a eu exactement l'inverse de ce qui s'est passé au Rwanda.
D'accord.
Et finalement, la rébellion Hutu au Burundi l'a emportée. Et aujourd'hui, le Burundi est une république dominée par les Hutus. Tandis qu'au Rwanda, en 94, c'est la minorité Tutsi qui a repris le pouvoir. Donc, j'appelle ça, moi, des pays miroirs, le Rwanda et le Burundi.
Oui, oui.
Quand un Burundais les Rwandais tombent malades. Et inversement, chaque événement qui se produit au Burundi a des conséquences au Rwanda et inversement.
Alors dites-moi, pour que ça attire autant d'appétit, bien sûr qu'il y a le pouvoir, mais il y a peut-être des ressources naturelles qui peuvent intéresser également les pays.
Justement non. Tant le Rwanda que le Burundi sont des pays riches en haricots, en maïs, en patates douces.
Alors où se trouve le coltan, le cuivre, le cobalt, le zinc, le manganèse ?
Le Rwanda et le Burundi sont des pays à partir desquels on peut facilement infiltrer l'immense voisin tout mou, là, ce ventre mou, qui est la République démocratique du Congo.
Ces
richesses, 75%
d'accord.
des réserves mondiales de coltan, se trouvent en République démocratique
Alors,
du Congo.
Et le coltan, on ne trouve pas partout, si j'ai bien compris. Et ça sert à quoi ?
Ça sert à fabriquer tout ce qu'on utilise tous les jours.
Les portables.
Votre téléphone, là, que je vois à côté de vous. On a besoin de coltan pour le fabriquer.
Oui, et on ne trouve pas ça partout.
Et 75% des réserves de coltan se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda en a très peu, le Burundi n'en a pas. Ça n'empêche pas le Rwanda d'être un gros exportateur de coltan. Mais c'est du coltan qui a été exploité illégalement au Kivu, en République démocratique du Congo. Il en va de même pour le bois précieux, pour la cassitérite. Vous connaissez la cassitérite ?
Non, même pas.
Il y a plein de mines de cassitérite au Kivu. Eh bien, si vous n'en avez pas de cassitérite, vous ne pouvez pas fabriquer de boîtes de conserve, par exemple, entre autres.
Cassitérite.
La cassitérite.
D'accord.
Donc, on a besoin de cassitérite pour fabriquer les boîtes de conserve, entre autres.
Bon,
naturellement, les diamants, l'or
et
beaucoup d'autres choses.
Oui, bien sûr.
Qu'on ne trouve pas au Rwanda. Le Rwanda n'a pas d'or, mais il exporte de l'or.
Oui. Donc, ce sont de bons commerçants quand même.
Mais non.
Même pas.
Ce sont les militaires rwandais qui ont établi des réseaux. Au début, ils l'ont pillé directement, mais depuis, ils ont leur réseau parce qu'ils ont occupé longtemps l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un système mafieux qui s'est installé qui permet au Rwanda d'exploiter illégalement et d'importer illégalement ces ressources naturelles au Rwanda et ensuite de les exporter avec l'étiquette Made in Rwanda.
Alors, je vais vous lire un extrait, je vais lire à nos auditeurs plutôt, un extrait de votre ouvrage. Les colonisateurs européens de la fin du 19e siècle et du début du siècle suivant crurent pouvoir distinguer une race supérieure, les Tutsis, et une race inférieure, les Hutus. Oui, ça remonte loin. C'est ainsi que les Tutsis furent privilégiés par les colonialistes, notamment dans le domaine de l'éducation où 90% des élèves étaient d'origine Tutsi, alors que les Hutus représentaient 85% de la population. Oui, il y a également un décalage par rapport à la population. Et c'est ainsi que l'origine soi-disant ethnique des indigènes fut inscrite dans l'état civil, figeant de cette manière le système féodal hérité de la période précoloniale. Avec la montée du nationalisme partout en Afrique, ce furent tout naturellement les élites instruites, c'est-à-dire les Tutsis, qui commencèrent à revendiquer l'indépendance tant au Rwanda qu'au Burundi. Voilà, et c'est là où vous nous dites que les Belges ont pris peur. Il s'ensuivit avant même l'indépendance ce que l'on a appelé au Rwanda en 59 la révolution sociale. Elle vit la prise du pouvoir avec l'appui bienveillant de Bruxelles, des partis et à dominante Hutu, etc., etc. Et il s'est passé, alors on survole hein, parce que oui. c'est compliqué, il s'est passé quelque chose en avril 94, un avion a été abattu et y transporté deux chefs d'État, d'autres personnes bien sûr,
deux
et un équipage français. Hutu, eh oui, qui était, et un équipage français. Et c'est à partir de là, on dit quand même que ça a été catastrophique. Vous, vous dites, mais non, ça a commencé bien avant quand même.
Bien sûr, parce qu'on se focalise toujours sur les abominables 100 jours. Cette période d'avril, donc depuis
94, tout de suite après
l'attentat contre l'avion, jusqu'à juillet 94, la prise de Kigali par la rébellion Tutsi du FPR. On se focalise sur cette période-là, durant laquelle, effectivement, il y a eu une apocalypse, un summum de tueries, notamment, ça a commencé à Kigali, ça s'est répandu ensuite dans le reste du pays, où on a massacré les Tutsis. Ça a été fait en présence de médias internationaux qui étaient encore présents dans le pays, et de beaucoup d'expatriés internationaux, ce qui fait que ça a été très médiatisé. Or, au même moment, la rébellion du FPR massacrait allègrement les Hutus dans les zones dont ils prenaient le pouvoir, mais qu'ils occupaient, mais dans ces zones-là, il n'y avait pas de reporters étrangers. Donc ça a été complètement occulté. Mais ce que je voulais dire pour répondre à votre question, c'est que cette guerre a commencé le 1er octobre 1990, lorsqu'un contingent de l'armée ougandaise a attaqué, j'ai bien dit ougandaise, hein, a attaqué le Rwanda, a traversé la frontière.
Je vous arrête deux secondes pour nos auditeurs, parce que moi j'ai la carte, je me suis photocopié une carte. Alors, il faut voir que c'est dans l'Afrique plutôt de l'Est ou du Centre.
Ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs.
Voilà, des Grands Lacs. Vous avez deux petits pays, tout petits, le Rwanda et le Burundi, c'est la taille de la Suisse, non ?
Oh, c'est plus petit.
Ah, plus petit. Au nord, vous avez l'Ouganda qui n'est pas bien grand. À l'ouest, l'ancien Zaïre, République démocratique du Congo, immense. Et au sud, vous avez la Tanzanie.
La grande Tanzanie aussi, qui est assez
vaste. Qui est un grand pays, voilà. Donc, vous nous disiez, excusez-moi, je vous avais interrompu.
Donc, le régime qui était en place à l'époque en Ouganda et qui est toujours en place aujourd'hui, était lui-même issu d'une ancienne rébellion contre le régime précédent. Et dans cette rébellion, il y avait beaucoup d'éléments tutsis descendants de ces réfugiés tutsis qui avaient fui le Rwanda en 59, 61, etc. Donc ce sont les Tutsis qui ont aidé l'actuel président Museveni à prendre le pouvoir en 1986. Et en 1990, les Tutsis avaient occupé un peu trop de place dans l'appareil d'État ougandais. L'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, était le patron des services secrets de l'armée ougandaise, donc il avait un poste très important dans l'appareil de l'État ougandais. Le patron de la rébellion, ce qui allait devenir la rébellion Tutsi au Rwanda, était vice-ministre de la Défense de l'Ouganda. Donc ce sont ces gens-là. Museveni a dû se rendre compte qu'ils occupaient un peu trop de place et qu'ils perdaient en popularité, lui, son nouveau régime. Donc il a encouragé, je dirais, ces gens-là à attaquer leur pays d'origine. Ils sont partis avec l'uniforme ougandais, avec des armes ougandaises. Ils ont attaqué le Rwanda. Donc c'était littéralement une agression étrangère. C'est pour ça que la France est intervenue militairement à l'époque au nom des accords de défense entre la République du Rwanda et la République française.
Ça veut dire que la France n'avait pas compris les enjeux.
Je pense que la France, effectivement, a été prise un peu par surprise.
Oui.
Parce que cette rébellion était soutenue en sous-main par les États-Unis via l'Ouganda. Les États-Unis avaient un grand plan pour justement exploiter les ressources immenses dont ces grandes... C'était la montée, rappelez-vous les années 90, c'était la montée du téléphone portable, la montée des ordinateurs portables,
oui,
etc.
Tout ça,
donc
oui.
Il y avait... Je pense que rien n'est arrivé au hasard, tout était planifié. Et le Rwanda a servi d'instrument. Donc on a commencé par prendre le contrôle du Rwanda pour ensuite envahir, puisque deux ans plus tard, le Rwanda et l'Ouganda d'ailleurs, ont envahi la République démocratique du Congo et ont commencé à exploiter les ressources naturelles de ces pays, de ce pays.
En sous-main, il y avait des pays occidentaux derrière.
Les États-Unis.
Oui.
À un moindre degré, je pourrais citer également le Royaume-Uni et Israël.
D'accord. Alors, le rôle de Paul Kagame là-dedans.
Paul Kagame était, lorsque la rébellion a éclaté, lorsque le Rwanda a été attaqué par ce contingent de l'armée ougandaise, il était en formation dans une académie militaire américaine, aux États-Unis. Il a été rappelé d'urgence, et le patron de la rébellion rwandaise, Fred Rugema, est mort dans des circonstances mystérieuses. Il n'a pas été tué par le gouvernement rwandais. Il a été tué par ses propres gens. Est-ce que Kagame était derrière ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une affaire très trouble dont il est très dangereux de parler. Et Kagame a pris le pouvoir au sein de cette rébellion. Donc depuis la fin 90, c'était lui l'homme fort de cette rébellion Tutsi rwandaise, soutenu par l'Ouganda et naturellement par la CIA, par les États-Unis.
Etc. Mais il est toujours au pouvoir.
Il est toujours au pouvoir.
Là, je dois dire qu'en trafiquant Internet, en cherchant, j'ai vu que Mediapart disent que c'est le Hitler africain.
Pour moi, je ne mâcherai pas mes mots.
C'est un tueur.
J'aime pas faire des comparaisons avec Hitler, bon, mais c'est le plus grand criminel actuellement au pouvoir. Le plus grand criminel actuellement au pouvoir. Il est responsable de la mort de millions de personnes, Rwandais, Congolais et autres.
Ah oui, parce que l'ONU parle de 800 000 Rwandais tués, et
oui.
Vous vous dites qu'il y a également d'autres...
Des millions de Congolais et des centaines de milliers de Rwandais tués au Congo. Les réfugiés rwandais Hutus qui ont été massacrés par l'armée rwandaise de Kagame.
Alors pourquoi la France l'a-t-elle accueilli?
Ah, alors ça, il faudrait demander à l'actuel chef de l'État français qui, je pense que, bon, le président actuel est jeune, je pense qu'il a voulu se démarquer de ses prédécesseurs. Et
je ne pensais pas à lui. Lui aussi l'a accueilli récemment?
C'est à lui que je pense surtout.
Ah oui, d'accord.
Oui. C'est à lui que je pense surtout. Il y avait une tentative à l'époque de M. Sarkozy.
Oui, c'est ça, oui.
Du temps de Hollande, il y avait certains ministres, comme Mme Taubira, qui étaient très pro-Kagame. Oui. Mais Hollande a été prudent, je dirais. Mais là, avec Macron, c'est reparti de plus belle. On ne s'est jamais accoquiné autant avec Kagame. Puisqu'il y a même eu... Nos auditeurs ne vont pas en croire leurs oreilles, parce qu'on en a très peu parlé. Mais il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation Internationale de la Francophonie,
oui.
L'OIF,
oui.
Qui a pour but de défendre la francophonie,
française.
Mais aussi... La démocratie et les droits de l'homme. Hein.
Mmh. Oui.
Bon.
Oui.
Et il y a eu des gens tout à fait respectables, comme l'ancien président Diouf du Sénégal, ou comme M. Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui ont occupé le secrétariat général de cet organisme. Et dernièrement, c'était une Canadienne d'origine haïtienne, Mme Jean, qui a occupé cette fonction. Et là, elle aurait dû normalement être reconduite pour un deuxième mandat. Le président Macron a mis son veto pour qu'elle ne soit pas reconduite dans ses fonctions, parce qu'il a proposé au président Kagame de nommer sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui était une ennemie acharnée de la francophonie, comme secrétaire générale de la francophonie.
Alors,
en octobre dernier, Erevan, en Arménie, les chefs d'État ont accepté cette proposition et ont nommé Mme Mushikiwabo.
Alors,
c'est l'actuelle secrétaire générale de la francophonie.
Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à cela?
Vous savez, on a un dicton populaire qui dit que pour dîner avec le diable, il faut se munir d'une longue cuillère. Je pense que M. Macron a cru pouvoir manipuler Kagame et arriver à ses fins. Peut-être que lui aussi pensait aux ressources de l'Est du Congo, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il a cru pouvoir manipuler Kagame. Moi, je pense que c'est l'inverse.
Oui.
Je pense que c'est Paul Kagame le plus malin.
Alors,
c'est un très bon joueur d'échecs, Paul Kagame. Très, très bon.
Oui, on dit ça aussi des Russes par rapport à...
C'est bien que vous parliez des Russes, parce que vous vous rappelez, il y a quelques mois, le scandale qu'il y avait eu lorsque des agents ou des réfugiés
en Angleterre.
Russes avaient été empoisonnés en Angleterre. Ça a été
une affaire
mondiale.
Mondiale,
bon, pourtant, ils ont survécu, hein. Et on
non, il
jamais...
y en a un qui est mort. Hein.
Ah, y en a, c'est possible. Oui, il y a quelques années, il y en avait un qui était mort. Mais le dernier, je crois, a survécu. Hein. Oui. Mais on a accusé Poutine. Est-ce qu'il était derrière ou pas? On n'en sait rien. Mais Kagame, il le fait tous les jours. Il y a des réfugiés rwandais qui sont tués au Kenya, en Afrique du Sud, même en Belgique ou en Norvège.
En Norvège, alors oui, justement, moi je suis allée voir ça. Un dénommé Abdul Ruzibiza,
oui.
Réfugié en Norvège.
C'était un soldat de Kagame.
Voilà, et lui, c'est un témoin qui pouvait démontrer une éventuelle machination. Et
il avait été reçu par le juge Bruguière
voilà.
dans le cadre de l'instruction pour l'affaire de l'attentat contre l'avion présidentiel.
Exactement, et les conclusions du juge Bruguière étaient assez accablantes, justement, pour Kagame. Mais entre-temps, Ruzibiza s'est rétracté et on comprend qu'il a dû avoir des pressions. Et puis, en fait, il a dit non, il est revenu, il a dit non. Ouais. Ce que j'ai dit est vrai, ce que j'ai dit
et
au
il
juge.
Il a publié un bouquin. Il a publié un bouquin, et un gros pavé dans lequel il raconte tous les massacres auxquels il a participé.
Et bizarrement, il est mort à 40 ans en Norvège.
Voilà.
Et on ne sait pas exactement.
Le poison est beaucoup utilisé. Oui. On étrangle également, puisque l'ancien chef des services secrets de Paul Kagame a été retrouvé étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud.
Oui. Bon, là, il n'a pas dû être étranglé, mais enfin, parce que je pense qu'en Norvège, il s'en serait rendu compte.
Mais pourquoi est-ce qu'on crie après Poutine et qu'on ne dit rien après Kagame qui fait 10 fois pire?
Oui, alors quand vous parlez aussi de cette haine de la France, et en particulier jetant l'opprobre sur l'armée française.
Oui.
Alors ça aussi, c'est un peu grave et vous essayez d'expliquer, vous nous expliquez un petit peu que c'était quand même une situation extrêmement complexe pour l'armée française.
L'opération
aussi.
Turquoise, comme on l'a appelée, qui a été mandatée par les Nations Unies, ce n'était pas une opération française, mais onusienne, elle avait un mandat de 2 mois. Faire une opération de maintien de la paix doublée d'humanitaire en 2 mois, c'est presque impossible. Parce qu'une opération militaire ne s'improvise pas. Il y a la logistique, etc.
Puis surtout que ce sont des pays compliqués.
Et c'était
quand
un pays.
Même, hein.
Imaginez la France en mai 40, quand tout le monde était sur les routes fuyant l'avancée allemande. Eh bien, c'est dans ce contexte que l'armée française est intervenue dans le sud-ouest, un tiers du Rwanda, pour essayer de stabiliser ce pays. En 2 mois, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais malgré tout, en 2 mois, ils ont fait malgré tout un travail formidable. Ils ont sauvé des milliers de vies, Hutu, Tutsi, que certains n'aient pas eu un comportement absolument irréprochable. C'est possible, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Mais globalement, ils ont fait un travail tout à fait remarquable. Ils ont rétabli la sécurité, ils ont monté un hôpital de campagne dont même MSF a vanté le travail à l'époque.
Et sans vergogne, Kagame dit que tout est de la faute de l'armée française.
Parce que le juge Bruguière a accusé Kagame d'avoir abattu l'avion.
Oui.
Et qui a abattu l'avion est responsable du génocide qui s'en est suivi. Donc Kagame a contre-attaqué en mettant en cause la France dans le génocide.
Ça arrangeait bien quand même des pays comme les États-Unis
et
l'Angleterre.
Puisque les États-Unis et l'Angleterre soutenaient Kagame. Donc ça les a
rendus.
Alors, et on a supprimé le français. Le français qui était la langue de l'enseignement, la langue officielle du Rwanda.
Maintenant, c'est l'anglais.
Eh bien, c'est l'anglais.
Évidemment.
Et le Rwanda a adhéré au Commonwealth. Et il va accueillir le sommet du Commonwealth l'année prochaine, dans quelques mois.
D'accord. Bon. Alors, c'est vraiment, vous voyez, déjà, l'heure tourne, hélas. Le clivage ethnique, toujours aussi présent?
Officiellement, non, parce que le régime actuel au Rwanda prétend qu'il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, que c'est la réconciliation, tout le monde s'aime. Mais en fait, il y a une classe dominante. Je ne dirais pas c'est les Tutsis, non. C'est la minorité de la minorité. Ce sont les Tutsis qui sont rentrés d'Ouganda ou des pays voisins, les Tutsis anglophones qui sont rentrés avec Paul Kagame. Donc c'est la minorité de la minorité, c'est quelques milliers de personnes, c'est la nomenclatura rwandaise. Parce que beaucoup de Tutsis se sont retournés contre Kagame, vous citiez le cas de cet officier qu'on a retrouvé mort en Norvège, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense à Diane Ruigera, qui a voulu se présenter aux dernières élections présidentielles, qui s'est retrouvée en prison avec sa mère et avec toute sa famille, dont le père avait été écrasé par un camion dans des conditions suspectes. Même les Tutsis rwandais se sont rendus compte qu'ils ont été manipulés par Kagame.
Est-ce qu'on peut espérer une réconciliation un jour?
Pour la réconciliation, c'est ce que je dis dans mon livre, il faut la vérité. Tant qu'il n'y aura pas de vérité, tant que les victimes Tutsis ne reconnaîtront pas le malheur des victimes Hutus et que les victimes Hutus ne n'exprimeront pas leur sympathie pour les victimes tutsis et reconnaîtront le malheur de l'autre, il ne pourra pas y avoir de réconciliation.
Parce que, rappelons-le, vous dites, ce n'est pas un génocide tutsi, c'est un génocide rwandais.
Bien sûr.
Il y a eu des morts des deux côtés.
Il y a eu peut-être 800 000, 1 million de morts.
Ouais.
Les tutsis, je le rappelle, représentent 12% de la population. Il y avait 7 millions d'habitants en 1994. S'il y avait eu 1 million de morts, il est impossible mathématiquement qu'il n'y ait eu que des tutsis massacrés. Il y a eu certainement autant, peut-être plus, de Hutus massacrés. Donc, comment peut-on demander aux Rwandais de se souvenir uniquement des morts Tutsis et de ne pas commémorer les morts Hutus ?
Bien sûr, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je vais rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit du Rwanda, 25 années de mensonges, aux éditions Vincentello d'Istria. Hervé Choseville, un grand, grand merci.
Merci à vous.
Et nous continuerons, dès votre prochain passage, à vous recevoir avec grand plaisir.
J'en serai ravi.